Bienvenue au deuxième congrès virtuel francophone de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats sur vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce cadre étant placé, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy Berthoud qui vient nous parler des dialogues intérieurs avec l'EFT. Bonjour Cathy.
Bonjour Maria.
Alors, les dialogues intérieurs, ce sont ces programmes qui tournent souvent en boucle dans notre tête. Et l'avantage de l'EFT, c'est de pouvoir facilement modifier ces conversations internes en un discours plus constructif. Cathy va nous montrer différentes façons de le faire parce que dans son cabinet, elle se sert de cette approche tous les jours pour soulager stress, douleurs, traumas et d'autres problèmes chez ses nombreux clients. Praticienne et formatrice d'EFT, Cathy pratique à Poitiers en France où elle a également organisé le premier congrès francophone d'EFT dans la vraie vie au mois de février dernier. Elle donne régulièrement des conférences, des ateliers à thème et des formations d'EFT à Poitiers et un peu partout en France. Et elle œuvre beaucoup pour l'introduction de l'EFT en milieu hospitalier. Cathy est l'auteur du livre EFT, un outil pour la vie, d'un jeu de cartes EFT et d'autres produits que vous trouverez sur son site internet e-moi-eft.fr. Alors, Cathy, dis-nous en quoi consistent plus précisément ces dialogues intérieurs.
Alors, on peut les appeler dialogues intérieurs ou la petite voix ou rumination constante ou ce qu'on veut. En fait, on y met le nom qu'on veut. Les dialogues intérieurs, en fait, sont une manière d'aborder ces problématiques physiques et morales, je dirais, un petit peu différemment parce que, bien évidemment, faire de l'EFT, c'est génial, c'est facile dans un premier temps, mais les gens ont beaucoup de mal à s'y retrouver. Ils sont capables de dire très exactement en 2 secondes ce qu'ils ont et quand on leur demande de répéter, ils ne savent plus. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un problème de connexion entre ce qu'on pense dans notre tête, ce qu'on entend par nos oreilles et ce qu'on dit par notre bouche. Hein. Et de là est venue l'idée d'approcher l'EFT de manière différente. En fait, il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil, mais c'est un petit concept qui permet de créer une relation amicale avec peu importe ce qui se présente en nous, en fait, que ce soit physique ou moral. Donc, généralement, lorsque le corps nous présente une douleur physique, on a souvent tendance à l'isoler, à la blâmer, à la juger. En fait, on dit « Oh, là, j'ai mal à mon genou, ça me gêne, j'en ai marre, ça me fatigue. » Enfin, plutôt tout à connotation négative. Au lieu de ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est apporter tous nos bons soins, tout notre cœur, toute notre envie de bonté, de générosité à cette douleur ou à cette problématique émotionnelle, de manière à l'aborder sous un angle différent. Voilà. Donc, plutôt que de blâmer et de juger, on va essayer de rassurer cette partie de nous qui a un problème. Et on peut alors laisser rentrer en jeu, en fait, la capacité naturelle de notre corps à guérir. Parce qu'il y en a une.
Et cette partie qui a, en fait, quelque chose à nous dire.
Oh oui, elle a beaucoup de choses à nous dire. Moi, je me sers très souvent d'un ouvrage. Alors, bon, c'est un parmi tant d'autres. Et d'un ouvrage d'un Canadien qui s'appelle Jacques Martel et qui s'appelle, si je peux lui faire 2 secondes de publicité, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. En fait, oui. À chaque douleur physique correspond quelque chose de médical, mais à la fois aussi quelque chose d'émotionnel.
Oui, il existe quelques livres comme ça, mais c'est vrai que celui-là est particulièrement complet.
Voilà, tout à
fait. Et ça peut donner des pistes pour trouver notamment des phrases à tapoter, c'est ça?
Exactement. Exactement. Mm-hmm. Parce qu'il y a le premier développement qui est sur à quoi ça correspond médicalement parlant. C'est un petit début de chapitre. Ensuite, il y a généralement à quoi ça correspond émotionnellement. Et puis, à la fin, sur chaque douleur, il y a écrit « j'accepte plutôt ça et ça ». Et quand on commence à accepter les choses telles qu'elles sont, ben, c'est le nœud du problème. Hein. C'est là où ça se dénoue.
Oui, ça va mieux.
Oui.
D'accord. Alors, dans cette approche des dialogues intérieurs, Tu as identifié combien de techniques, combien de façons différentes de faire?
Alors, je dirais qu'il y a une petite distinction à faire sur quatre catégories différentes de dialogue intérieur. Il y a le premier qui serait, par exemple, le dialogue avec tout son corps, son organisme en entier. Voilà. Alors ça, généralement, c'est lorsque le corps, notre corps nous présente un problème de douleur sur tout le corps, tel que, par exemple, ça, l'exemple le plus flagrant, c'est le syndrome de fatigue chronique, par exemple. Mais ça peut être aussi de l'arthrose ou de l'arthrite dans tout le corps. Pas simplement les mains ou les pieds, mais ça commence à se mettre un petit peu partout. Ou ça peut être aussi des problèmes d'allergie ou n'importe quoi d'autre qui affecte le corps en entier. Voilà. Ça serait plutôt la première démarche. Après, je vous expliquerai comment faire pour aller la solliciter. Le deuxième point, je dirais que c'est vraiment un point beaucoup plus précis parce que c'est comment travailler avec un organe spécifique ou une partie de son corps, comme le genou par exemple, ou les reins, ou le pancréas pour les diabétiques, ou le système digestif, ou le métabolisme en entier, ou voilà, qui a besoin de guérir. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça serait le dialogue de ce qu'on appelle le saboteur. Enfin, en français, on dit surtout l'auto-sabotage. Voilà. Lorsqu'on a un blocage quelque part, celui-ci, on le ressent, on n'a aucune idée d'où ça peut venir. Et ça peut être un nœud dans la gorge, une boule dans le ventre, ça peut avoir une couleur ou une texture particulière, l'impression d'avoir un poids au niveau du plexus solaire. On entend ça, ou il y a des gens qui nous disent un trou noir dans le ventre. Voilà. Ça, cet auto-sabotage-là nous empêche d'aller de l'avant et généralement nous retire la motivation. Ça, c'est le troisième point. Voilà. Et puis le quatrième point, moi j'aime bien celui-là parce qu'il y a plein de choses rigolotes à faire autour. C'est ce qu'on appelle généralement l'enfant intérieur. Alors ça parle à plein de gens, mais ça parle pas du tout à plein d'autres personnes. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer un tout petit chouï. C'est quand quelque chose en tant qu'enfant n'a pas été intégré correctement. Ça nous arrive par exemple, si je dois vous donner un exemple, dans la confiance en soi. Il y a des choses pour lesquelles on va être très fort et puis il y en a d'autres pour lesquelles on va bugger systématiquement. Donc, lorsqu'un enfant est toujours dans ses peurs, eh ben, les peurs d'adultes rejaillissent de la même manière. Et du coup, notre attitude, l'attitude qui va avec ses peurs, eh ben, va nous faire acter ou agir comme si on avait toujours 5 ans. Alors, ben, généralement, ce n'est pas la bonne solution, moi. Et ça peut nous affecter beaucoup plus que ce qu'on pense. Se vexer, se buter, pour vous donner quelque chose de plus physique, taper du pied, par exemple, quand on n'est pas d'accord, eh ben, on le fait exactement de la même manière à 45 ans qu'on le fait à 5 ans. C'est pas la bonne solution.
Effectivement, mais
On
des
a le
fois c'est celle
droit,
qui
hein,
se présente.
on a le droit d'agir comme ça, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux.
Oui, je pense que ça parle à un certain nombre de personnes, en effet.
Malheureusement, on est tous à la même enseigne.
Oui. Alors, est-ce que tu veux bien développer un peu le premier point, donc le dialogue avec tout le corps ou avec tout l'organisme?
Tout à fait. Donc, par exemple, si on prend le syndrome de fatigue chronique, on n'a absolument aucune idée souvent de là où ça vient. Enfin, j'ai, on va dire, moitié des personnes qui savent, l'autre moitié qui ne sait pas, ou qui... Pas qui ne sait pas, parce que d'où ça vient, on ne le sait pas forcément. Mais la moitié des personnes sont capables de dire, voilà, j'ai ce syndrome de fatigue chronique qui a été trouvé par mon médecin depuis telle date, mais je sais que je l'avais en amont depuis plus tôt cette période-là. Et on essaye de voir ce qui se passait au moment où ce syndrome a commencé à intervenir. Donc, le syndrome de fatigue chronique, c'est une énorme fatigue qui laisse très peu de jours de rémission et qui handicape énormément la personne dans sa vie parce qu'elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Hein. Mais ça peut être aussi des sensations corporelles, telles que des douleurs de dos massives ou douleurs dans les jambes. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez spécifique ou des allergies sur tout le corps, par exemple. On n'est pas trop capable de dire d'où ça vient, enfin des fois oui, mais des fois non. Et donc on va juste être capable de donner approximativement le moment où ça a commencé à intervenir dans sa vie. Donc là, on va s'adresser à son corps en entier et plutôt que de commencer à ruminer ou à avoir un petit dialogue intérieur en soi qui est je suis nulle, j'arrive plus à rien, de toute façon, je cherche plus à rien, etc., etc. On va aborder les choses d'une manière complètement différente, mais plutôt voir les choses positives. Alors, généralement, quand on ne demande pas à la personne, elle n'a pas grand-chose à nous apporter. Hein. Mais si votre corps vous met dans un état de « je ne peux plus avancer, je ne peux plus faire les choses que j'aime, etc., etc. », il faut peut-être aller chercher juste le côté positif. Oui, ben, ça me permet de me reposer. D'habitude, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais, etc., etc. Donc, on va essayer d'aller voir ce qui se passe d'un côté positif et dans tous les cas, de l'accepter et de l'accueillir tel que c'est. Donc, ça paraît très compliqué. Tout ça, ça ne l'est pas du tout. On va juste se poser 30 secondes et voir s'il en est. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Voilà. Je vous dirai après comment faire pour mettre en œuvre. Hein. Là, oui, je vais juste développer les 4 premiers points dans un premier temps. Ça te va, Maria?
Oui, très bien.
D'accord. Donc, la deuxième chose, ce sera par exemple, le deuxième point, c'était travailler un organe spécifique ou une partie du corps comme les reins, le pancréas. Alors, le pancréas, c'est quelque chose que j'ai travaillé dernièrement avec quelqu'un. Ça ne date pas d'il y a très longtemps, ça date du tout début de l'année, en fait, pour ainsi dire, du 1er janvier. Donc, le pancréas, c'est ce qui pose un énorme problème à la majorité des gens qui sont diabétiques parce que c'est un non-fonctionnement ou un manque de fonctionnement du pancréas qui fait que le pancréas ne distribue plus l'insuline qui devrait normalement être distribuée par cet organe-là. Et donc, on est obligé de pallier par des traitements insulinaux, d'insuline pour les personnes. Pas forcément, hein, des fois, il peut y avoir simplement de la prise de médicaments. Mais c'est… Voilà. Alors, bon, bref, pour faire court… comment aller, au lieu d'aller voir cet organe en se disant « oui, mon pancréas ne fonctionne plus, ça ne va pas du tout, etc. etc. », c'est d'aller mentalement, alors les gens sont en capacité de le faire, d'autres moins, mais c'est que de l'imagination, hein. On ne va pas essayer d'aller faire des trucs complètement dingues, c'est juste en imagination, déjà, dans un premier temps, d'imaginer son pancréas, hein, de lui dire « oui, bah, peut-être que tu as un problème, peut-être que ce problème c'est pour me signaler quelque chose », donc là on peut faire référence au bouquin de Marcel, qu'est-ce que tu veux bien me dire? Je comprends pas, j'ai pas toutes les données, j'ai pas le décodeur. Mais bon, dans un premier temps, j'accepte. Voilà. J'accepte cette maladie, même si ça me plaît pas du tout. J'accepte de savoir que tu as une déficience quelconque. J'accepte de voir tous les inconvénients qui sont liés à ça. Et puis maintenant, ben, je me mets en accord avec toi. Je comprends rien de ce que tu veux me dire. Alors, c'est une approche qui peut paraître un peu bizarroïde dans un premier temps, mais de toute façon, comme on n'a pas d'autre chose à faire, je dis pourquoi pas le faire. Hein. Et puis, imaginez l'entourer d'amour, son pancréas, et lui dire, écoute, sois sympa, sois gentil, et essaye de pas trop me mettre mal, faire avec ton système digestif ou avec toute autre partie précise. Ça peut être le foie, ça peut être les reins, comme je le disais tout à l'heure, et puis d'aller voir ce qui monte. Donc, dans ces cas-là, il va y avoir plein de choses qui vont monter en dialogue intérieur. Donc, il y a cette petite voix en vous qui va vous dire, ah ben oui, mais pas... Tu ne te rends pas compte, ça me pourrit la vie, etc., etc. Ça, on peut le travailler en EFT tout simple, en EFT de base. Mais là, quand on va chercher cette dimension autre qui est l'acceptation, y mettre de la joie, y mettre de la lumière, y mettre plein d'autres choses positives, eh ben, y a plein d'autres choses qui montent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au moment où, au moment où on fait ça, notre cerveau ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en pleine discussion. Donc, on l'entend, on l'écoute, ou on ne l'entend pas et ou on ne l'écoute pas. Mais on peut y aller simplement avec son imagination. Ça peut être largement suffisant. Et à partir de là, on va se tapoter en continu, comme je vous expliquerai tout à l'heure.
Voilà. Est-ce qu'il y a besoin pour ça d'avoir des connaissances anatomiques par rapport à cet organe?
Absolument pas. Moi, au début, les gens me disaient « oui, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais même pas où c'est situé dans mon corps. » C'est pas grave. Moi, très, très, très souvent, je fais dire aux gens « là ». Et votre cerveau va y aller d'office.
D'accord.
Bon, vous pouvez aussi avoir cette possibilité de prendre un dictionnaire et de regarder où ça se situe. Hein, parce que comme ça, vous en aurez une vision beaucoup plus claire. Hein. Toujours est-il que la personne avec laquelle j'ai travaillé de cette manière-là, en tout début d'année, on a eu des résultats plus que probants, puisqu'il se trouve que la semaine dernière, tout simplement la semaine dernière, elle est allée faire son bilan trimestrielle au THU et elle est passée, elle est toujours au traitement. Hein. Le traitement n'a absolument pas été arrêté. Le traitement est le même depuis une année. Donc, on se doute bien que s'il y avait eu un changement au niveau du traitement, Il aurait été vérifié en septembre dernier. Or, le taux était toujours exactement le même. Et donc là, suite à ce travail avec l'EFT, cette personne, c'est un homme, est passée de 4 grammes avec traitement à 0,79, toujours avec le même traitement, et avec de l'EFT entre les deux.
Ah oui.
Et ça, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai vu, ce n'est pas moi qui l'ai testé, c'est le laboratoire qui a fait les prises de sang, et c'est le professeur qui le suit au centre d'endocrinologie. Donc, il n'a absolument pas demandé à quoi c'était dû. Ce monsieur, ce professeur est persuadé que son traitement commence à faire effet. Sauf que les deux fois précédentes, les deux trimestres précédents, donc sur un semestre, il n'y avait eu absolument aucun changement.
D'accord.
Alors après, on n'est pas là pour ni critiquer, ni dire quoi que ce soit par rapport à la médecine classique, parce que, voilà, peut-être que ça aurait été pire avec son traitement. Et le
toujours traitement est-il que la combinaison des deux a fait.
Voilà, ça, on est tout à
fait
d'accord.
Visible.
Voilà, c'est tout ce qui compte. De toute façon, la seule chose qui compte pour moi, c'est le résultat. Et le résultat,
oui,
c'est que
mais tu disais que cette personne, du coup, n'avait pas forcément de connaissances médicales par rapport à son
pancréas. Elle n'en a absolument aucune. Elle n'en a absolument aucune. Elle ne tient même pas à en avoir. Il se trouve qu'elle s'est retrouvée dans un schéma où la médecine du travail a dit 4 grammes, trop dangereux par rapport à votre profession. S'il n'y a pas d'amélioration, donc elle s'est dit, je vais essayer tout et n'importe quoi. En l'occurrence, c'était pas n'importe quoi, c'était de l'EFT. Et je trouve que le résultat a été plus que probant. Voilà.
D'accord.
Petit message personnel. Oui, super. Parce que voilà, il n'y a pas de changement.
Il y a le tout, il y a le n'importe quoi et il y a l'EFT.
Et voilà. Et cette personne, n'est pas plus formée, elle n'est absolument pas du tout formée à l'EFT. Elle a juste respecté un petit protocole qu'on a mis en place, qui était vraiment très restreint, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui ne tient pas à faire de l'EFT tous les jours, ou qui dit, ou qui n'a pas le temps, ou que ce jour-là, il n'y a pas passé, qui n'a pas une implication énorme, si ce n'est l'envie de ne pas passer à la trappe par rapport à son travail. Voilà, ça l'a légèrement motivé quand même, il faut bien le dire. Mm-hmm. Mais sinon, n'est pas du tout dans les techniques énergétiques et n'a pas spécialement de recul sur lui-même avec une envie de travailler sur toutes ses problématiques de vie. Il y a des garçons qui le font et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire. Là, il voulait juste du résultat. Il s'est dit, je vais essayer 3 mois, je verrai. Bon, le résultat est là, génial. Je sais que ça va lui permettre de continuer. Et voilà.
D'accord. Bon. Donc ça, c'était le deuxième point, dialogue avec un organe spécifique.
Tout à fait.
Et ensuite, en troisième lieu, tu avais mentionné le blocage ou l'autosabotage.
Lorsque l'on a un blocage physique que l'on ressent vraiment bien, pour lequel on n'a toujours pas d'explication, qu'on est capable de relier avec le fait que ce nœud dans la gorge est arrivé quand le beau-frère a dit telle et telle phrase, ou que la collègue a dit « oui, c'est de ta faute devant le patron », ou que voilà. On a une idée du moment où c'est arrivé, là encore, mais on n'est pas vraiment persuadé que ce soit ça. Et puis que c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent quand on se retrouve dans un schéma qu'on a l'habitude de subir, jamais avec les mêmes personnes, jamais dans le même contexte, mais systématiquement, on a le nœud dans la gorge ou la boule dans le ventre ou cette impression de gargouillis ou de barbouillage intérieur. Enfin, on ne se sent pas tout à fait normal. Ou ce poids sur le plexus. Là, c'est vraiment quelque chose qui est une indication corporelle, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Ça va nous empêcher d'aller plus loin, ça va nous retirer toute motivation, ça va… Voilà, on sait qu'on n'est pas dans notre état normal. Donc ça, on peut aller travailler directement.
Mm-hmm.
Et puis le quatrième point, c'est ce petit enfant intérieur. Voilà. C'est ce petit enfant intérieur qui nous joue des tours. On fait très, très peu souvent l'adéquation entre cette petite fille de 5 ans qui était bloquée quand on la regardait un peu sévèrement et la grande fille de 45 et 50 ans qu'on est maintenant qui peut avoir un regard réprobateur très court, sur un laps de temps très très court de son patron et qui se retrouve exactement dans le même schéma et qui se bute, qui se coince, qui dit « pourquoi il me dit ça ?» ou « pourquoi il me regarde comme ça ? Je me sens mal à l'aise ?» et qui la remet dans des attitudes qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, très très souvent, de taper du pied, de se buter, de ne plus avoir envie, de voilà. Et ça, c'est des choses que j'entends journellement dans mon cabinet. Mais très souvent, c'est pas le lien. On ne fait pas le lien hein, entre l'enfant qu'on était dans la même situation et maintenant.
Mmh. Tu as parlé tout à l'heure de l'exemple d'un problème de confiance en soi.
Oui.
Est-ce que tu as un cas, quelque chose à dire à propos de ça?
Oui, la semaine dernière, on a fait un très bel atelier. Il y avait une dizaine de personnes et c'était très drôle parce que ça faisait écho chez tout le monde parce que c'était cette femme qui disait que à l'école, elle était nulle. Enfin, elle s'est toujours sentie nulle. En plus, à un moment, je lui ai posé la question, est-ce que tu as eu un prof particulièrement plus qu'un autre qui n'était pas sympa, etc. Elle dit non, jamais. Je lui ai dit, mais tu étais dans le fond de la classe, personne ne s'occupait de toi. Non, j'étais au premier rang. Mais elle était au premier rang, pour elle, la façon dont on lui expliquait les choses, elle ne comprenait rien. Et elle a gardé cette attitude, cette dame a 63 ans, elle est à la retraite. Et les blocages sont toujours omniprésents. Ils sont présents avec son mari, c'est-à-dire qu'elle aime beaucoup son mari l'aime beaucoup, il fait tout pour elle. Mais elle se retrouve tout, avec ses enfants, c'est la même chose. Elle se retrouve toujours dans la même situation, incapable de répondre quand on lui pose une question, incapable de dialoguer avec les amis, qu'elle n'a pas en grand nombre, incapable d'exprimer ses émotions et ses sentiments. Elle se retrouve comme quand elle avait, on me disait, entre 10 et 14 ans, au premier rang de la classe, avec cette incapacité à interagir, cette impression que personne ne pouvait s'occuper d'elle, que de toute façon, elle ne comprendrait jamais rien, qu'on avait beau lui expliquer, et bien dans sa vie, à 63 ans, elle est toujours au même endroit. Et là, je pense qu'il est très important d'aller travailler son enfant intérieur pour guérir ses plaies de l'enfance, qui sont avec ou sans raison, et puis on ne va pas faire une psychanalyse, hein, mais juste aller voir ce qui se passait à ce moment-là, parce que les souvenirs sont là, elle les a, mais et puis de les guérir, entre guillemets, avec l'EFT, et du coup, ça s'arrête là, maintenant, dans sa vie de maintenant.
Mmh. Oui, l'avantage avec l'EFT, c'est qu'on peut le faire très vite.
Oui, on n'est pas obligé d'y passer 6 ans sur un canapé. C'est là tout l'intérêt de cette EFT. Alors après, on a envie ou pas envie, hein. Mais on sait que c'est une solution, ça existe.
Oui.
Et peu de gens arrivent à faire le lien, je reviens là-dessus, hein, mais je ne vois pas le rapport, c'est ce que j'entends très souvent. Je ne vois pas le rapport, pourquoi vous voulez me faire parler de mon enfant? Mmh. Et je dis, je ne veux pas vous faire parler, j'essaye juste de voir s'il y a un lien. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce type de situation en étant enfant?
Oui.
Oui, mais c'est maintenant que j'ai un problème avec mon patron. Mon patron, il n'existait pas dans ma vie. Ça, j'entends très, très, très souvent. Et souvent, quand les personnes sont d'accord et qu'elles veuillent bien aller voir un petit peu ce qui se passait, et des fois, il n'y a rien de grave. Hein. C'est pas des choses horriblissimes ou traumatisantes, ce sont juste des états dans lesquels on se trouvait ou se sentait, on se ressentait à un moment précis, on le travaille et ça change tout maintenant.
Ça, c'est génial. Et il y a une partie de nous qui est restée coincée dans cette situation-là.
Voilà.
Qui ne remonte pas forcément à l'enfance. Mais souvent, c'est le cas.
Pas forcément. C'est très souvent le cas, mais pas forcément. Ça peut être à 18, à 20, à 25. Voilà, ça peut être n'importe quand, en fait. Mais c'est vrai que les premières empreintes de notre vie sont très souvent faites en enfance, dans l'enfance.
Oui, elles ont été renforcées depuis. Donc, forcément,
elles sont renforcées moult fois. Voilà. Mmh. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas le lien, d'ailleurs. Hein. C'est parce que comme ça s'est retrouvé à plein de reprises dans notre vie, on ne sait plus le début de la fin et du coup, on a du mal à tirer les fils du début.
Oui.
Voilà.
Alors, quand peut-on utiliser cette approche des dialogues intérieurs avec l'EFT, Cathy?
Moi, je dirais tout le temps. Parce qu'en fait, les dialogues intérieurs, c'est simplement le fait d'avoir son cerveau tout le temps en ébullition. Et plutôt que d'y être en mode négatif, on va essayer d'aller utiliser ces dialogues intérieurs en faisant des conversations amicales, des conversations d'amour avec soi-même. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, on va aller parler à nos souffrances et douleurs, enfin, souffrances morales et douleurs physiques de manière amicale. Oui, si, je reprends le même terme. De manière amicale. Avec tout ce qui se présente à nous. On peut être en train de faire la vaisselle et d'avoir un dialogue intérieur qui s'instaure sur le dernier repas de famille où on est en train de repenser que tata Jeannette a dit ça et que tonton Fernand a répondu ça et que franchement c'était pas très sympa et que la cousine Marie s'en est mêlée et que donc tout ça c'est du dialogue intérieur hein. Et généralement on turbine plutôt dans le négatif que dans le positif. Donc oui. On va prendre 5 minutes, on va s'essuyer les mains, on va aller s'asseoir 30 secondes, n'importe quel moment de la journée, et là, on va pouvoir commencer à faire les tapotements. Mmh. Alors, très généralement, là où le bas blesse, c'est que les gens me disent « Ah ben oui, mais je ne sais plus quoi dire. Je ne sais jamais quoi dire. » Eh ben, oui. On va juste se remettre, tout comme on est en train de faire la vaisselle, dans son dialogue intérieur, et là, on ne va pas chercher à dire des choses. On va juste continuer à penser à ce dont on était en train de penser. Le dernier enterrement du vieux tonton, la dernière fête de famille où ça fait un peu friter, la dernière fois qu'on a rencontré le prof de ses enfants, et que, alors au lieu de le raconter à quelqu'un, on va tout simplement se mettre à se tapoter sur ça en y réfléchissant. Dans un premier temps, nul n'est besoin de le verbaliser comme on le fait généralement en EFT classique. C'est là où ça va vous donner une grande avance. Alors, on va pouvoir commencer à tapoter sur le point karaté et ensuite sur tous les points de la version courte en simplement en ayant cette discussion intérieure. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure où on va tapoter, on va essayer d'y aller de manière amicale et non plus de manière négative. Alors, je sais que ça demande un vrai petit travail, hein, mais c'est tellement efficace que même si au début on n'y arrive pas du tout, plus on va se tapoter en ayant son dialogue intérieur, plus le côté amical et réparateur va arriver.
Mmh. On peut imaginer devenir sa propre meilleure amie, par exemple.
Ouais, ben c'est très exactement ça, Maria. C'est qu'on va essayer de devenir sa propre meilleure amie. Parce qu'en se tapotant tout simplement comme ça, on va aller s'auto-guérir, hein, s'auto-faire du bien. Je ne sais pas trop comment le dire, mais on va, dans tous les cas, animer quelque chose qui est là en nous, de toute façon, mais qu'on a du mal à faire ressurgir parce que ce dont on est en train de penser est négatif. En fait, on va aller penser ses plaies. Ça paraît cohérent ?
D'accord. Oui, tout à fait. S'auto-faire du bien, ça me plaît beaucoup.
Ah oui, s'auto-faire du bien.
Auto-faisons-nous du bien.
Voilà. Puisque c'est si difficile aux gens, moi je l'entends tous les jours en séance, les gens me disent « Mais oui, mais avec vous, ça roule tout seul, mais quand moi je veux le faire toute seule, je ne sais jamais quoi dire. » Mais oui. Ce dialogue intérieur, vous l'avez sans moi. Donc, la verbalisation étant si difficile, hein, dans un premier temps, dans une première approche, simplement asseyez-vous, continuez ce que vous étiez en train de faire dans votre tête et commencez à vous tapoter sans vous poser la moindre question. Mm. Et plus on le fait, j'en reviens toujours à la même chose, la persistance, étant très intéressante dans ce cas de figure, plus vous allez vous tapoter en vous disant « Oui, mais tonton Fernand, il a dit que tata Marie, tout compte fait, c'était une vieille nique, etc. etc. » Vous allez vous positionner avec un pas de recul et vous allez finir par voir cette chose positive arriver. Et vous allez continuer et continuer. Mais, enfin, quand je dis continuer et continuer, ça ne va pas vous prendre une heure et demie dans votre journée. Hein. Ça peut vous prendre 5 petites minutes.
Oui. Et à la fin, vous ne verrez plus les choses tous les jours.
Voilà. À la fin, vous ne verrez plus les choses de manière négative, mais positive. Et c'est là le grand intérêt, c'est qu'il n'y a pas eu de verbalisation, parce que ça paraît tellement difficile pour la majorité des gens. Mais malgré tout, il va y avoir quelque chose qui va s'enclencher en vous. Mmh. Parce que le saboteur, généralement, nous empêche d'aller de l'avant. Alors, donc, commencez sur le mode négatif et au bout d'un moment, ça va se transfigurer, ça va être différent.
Mmh. Alors, comment faire concrètement? Tu sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui nous écoutent. Tendez bien l'oreille parce que ça peut être un outil aussi intéressant pour compléter votre pratique, même si vous l'êtes sûrement déjà intuitivement.
Oh, il y a de fortes chances. Enfin, j'espère pour eux, oui, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont certainement déjà là-dedans. Malgré tout, peut-être uniquement pour vous, alors que moi, je l'incorpore vraiment dans mes séances. Je ne fais pas que ça, je fais beaucoup de tapotements classiques, hein, mais enfin, avec verbalisation, bien évidemment, puisque les gens viennent me voir pour ça. À un moment, pour enclencher ça chez les gens, puisqu'ils ont tant de difficultés à produire ça chez eux, ben, faut trouver d'autres solutions. Donc, l'étapement, les dialogues intérieurs se font avec le tapotement continuel. Mais tout comme je l'ai déjà dit et je l'ai déjà préconisé pour les gens, quand vous regardez la télé, tapotez-vous, puisque toutes les émotions montent, que ce soit la colère, la tristesse, l'angoisse de voir ces guerres, de voir ci, de voir ça, de voir des images atroces à la télé. Alors, la première solution, c'est d'éteindre la télé ou de couper la radio. Mais on ne le fait pas forcément. La deuxième solution, c'est vous regardez quelque chose qui vous rend triste, mais tout comme je le fais pour un film. Moi, la première, je regarde Sur la route de Madison, c'est comme si c'était vraiment me faire du mal. C'est un film qui me fait pleurer comme c'est pas possible. Mais c'est à la fois pleurer d'émotion, pleurer de joie, pleurer d'amour, pleurer de tristesse, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle doit faire à la fin. Mais voilà, tout ça, c'est là, c'est de l'émotion. Je suis incapable, en regardant le film, de faire le tri. Donc, c'est pas grave. Quand je regarde ce film, je me tapote. C'est une façon de faire. Parce qu'en même temps que je regarde ce film, qui m'est complètement étranger, parce que ça ne s'est jamais passé dans ma vie, avoir à faire un choix aussi difficile que celui-ci, c'est pas une vraie chose de ma vraie vie. Mais par contre, j'ai certainement eu des tas de choix à faire qui étaient identiques pour des raisons différentes et qui donc font remonter ma propre tristesse, sinon ça ne ferait pas écho avec moi et je ne serais pas en train de pleurer. Et qui du coup, comme je me tapote en continu tranquillement, mais tranquillement, tout doucement, en regardant ce film, m'apaise sur plein d'autres choses.
Je comprends.
C'est clair ce que je suis en train de raconter.
Oui, pour moi,
d'accord.
C'est clair.
Ouais, d'accord, j'espère que ça l'est pour toutes les personnes qui vous écoutent. Donc, dans tous les cas, comment utiliser cela? Alors, pour le protocole pur et simple en séance, je vais demander à la personne, alors ce n'est pas la peine de noter, il vaut mieux écouter dans un premier temps. J'ai dit à Maria que je mettrais ce petit document en PDF et que tout le monde pourrait l'avoir. Donc, je demande à la personne d'abord, je vais lui demander de se tapoter sans discontinuer. Alors, peu importe là où on tapote, du moment qu'on se tapote. Donc, on peut commencer par le point karaté, et puis après, faire la ronde courte, donc le dessus de la tête, le sourcil, le coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, clavicule, sous le sein, sous le bras, et recommencer par le point karaté. Le tout, c'est de faire une ronde sans s'arrêter, tout le temps, tranquillement. Mais vraiment tranquillement. On peut y ajouter les doigts si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Un petit truc, tout simple, tout tranquille, mais qui tapote continuellement. Ensuite, je vais demander à la personne, pendant qu'elle se tapote, de s'auto-présenter à elle-même. C'est-à-dire que dans son dialogue intérieur, avec sa petite voix à elle, de dire « Salut, c'est Cathy ou c'est Maria, je viens voir s'il y a quelque chose en moi qui fait que ça ne va pas, une douleur physique ou une douleur morale. Je viens, tout à l'heure on a rigolé, en aparté avec Maria sur le fait de dire « Je viens en paix ». Ça fait penser à beaucoup de films. Ça fait penser à beaucoup de films, mais c'est exactement ça. Je viens en paix dans moi-même. Alors, il y a peut-être des gens qui vont trouver cette façon de faire complètement loufoque, mais c'est pas loufoque en fait. C'est voilà. Je viens à l'intérieur de moi. Je viens en paix. Je viens voir ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je viens y voir. Et dans tous les cas, je viens reconnaître cette douleur et ce mal-être qui est là à m'empoisonner la vie. Je viens te voir, je viens au-devant de toi. Ensuite, une fois qu'on s'est présenté en disant « Coucou, c'est Cathy, je viens te voir, toi, ma douleur de genou, là. » On va lui faire état à cette douleur qu'on n'avait jamais, au grand jamais, réalisé jusqu'à cette minute maintenant, qu'on pouvait s'auto-guérir. Excuse-moi, ma douleur de genou, jusqu'à maintenant, je ne pensais pas que j'allais pouvoir venir t'aider. Maintenant, je suis là avec toi et je viens en paix, j'aime bien ça, ça me fait rigoler, je viens en paix te dire que au lieu de t'isoler ou de te blâmer ou de dire si c'est une douleur morale, j'ai honte d'être tout le temps triste, et si c'est une douleur physique, au lieu de dire ce satané genou droit là qui n'arrête pas de m'enquiquiner, parce que c'est comme ça qu'on va traiter son genou droit généralement, et bien cette fois-ci on prend 2 secondes et on dit coucou mon genou droit, ouais c'est vrai, tu me fais super mal, mais je viens te voir et je viens voir, voilà, c'est très rigolo, il faut le faire sur le thème de la rigolade. Je viens te voir et reconnaître que tu es là et que tu existes, même si je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller voir le livre de Jacques Martel qui explique ce que sont que les douleurs du genou émotionnellement parlant. Ensuite, le troisième point qu'on pourrait faire, c'est expliquer avec son cœur, avec ses tripes, maintenant que guérir tous mes vieux schémas de pensée, si c'est une douleur émotionnelle, toutes les choses que j'ai l'habitude de faire et qui ne me conviennent pas, eh ben, je viens les voir, les reconnaître, ce que je disais juste auparavant, et qu'on va essayer de faire une réunification de moi-même. Alors, le terme réunification de moi-même, c'est dire tu es là, tu existes, je suis une partie de toi, mon cœur et ma tête sont une autre partie de moi, et on va essayer de mettre tout ça ensemble. J'espère que c'est assez clair, parce qu'en fin de compte, c'est hyper facile à faire. J'espère que je ne suis pas en train de compliquer la chose. Mais je pense que la majorité d'entre vous vont vraiment comprendre ce que je veux dire par là. Enfin, j'espère.
Ah, on va le faire ensemble, donc ça va être
voilà.
Ça va être tout explicité.
Voilà, ça sera plus simple, parce que les mots, des fois, ça complique plus que ce que ça voudrait. Donc, ensuite, on va simplement aller mettre notre intention de guérir. Simplement, c'est tout. C'est juste, on va y aller avec l'intention. Mais tout comme on le fait quand on fait de l'EFT classique, si on est là en train de se tapoter, c'est bien qu'on a une intention précise qui est celle de se sentir mieux. Donc là, on va juste renforcer un peu plus cette intention de guérir en allant la mettre droit sur le genou ou tout droit sur le plexus solaire si on a l'impression d'étouffer ou de se sentir pas bien, ou tout droit sur le fait qu'on n'a pas tellement apprécié que tonton Fernand il ait fait une réflexion très désagréable devant toute la famille à Tata Marie, voilà. Hein? Peut-être qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être que si Tata Marie a fait pris une réflexion devant tout le monde, c'est peut-être qu'elle l'avait mérité, peut-être ou pas, hein? ou peut-être que c'était pas gentil mais que ça venait d'ailleurs, ou que... Enfin bon, il peut y avoir des tas d'explications. On ne va pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison. On va juste aller avec son intention de guérir cette souffrance que ça nous fait.
Mmh.
D'accord? Et puis après, on va... Alors là, c'est une connotation un petit peu particulière, mais ce n'est pas demander pardon en termes ésotériques ou en termes religieux. Ce n'est absolument pas ça. On va demander pardon pour nous.
C'est-à-dire
ce que je dis? Eh bien, c'est-à-dire que pour tout ce qu'on a fait de manière intentionnelle ou non intentionnelle qui pourrait avoir causé cette douleur. Alors, mettons, on a été faire du ski et qu'on s'est fait une douleur au genou très forte, ben, intentionnellement, on ne l'a pas fait exprès, non intentionnellement, peut-être qu'on ne s'est pas assez échauffé, peut-être qu'on arrive de but en blanc sur les pistes de ski sans avoir vraiment préparé son corps à l'avance. C'est généralement ce qu'on fait, hein. Généralement, on
peut-être qu'on s'est couché
pendant un an. Pardon, Maria?
Peut-être qu'on s'est couché un peu trop tard la veille.
Peut-être qu'on s'est couché trop tard la veille. Peut-être qu'un mois avant, on n'est pas retourné au cours de sport ou à la natation pour mettre un peu son corps en condition. Et puis, si c'est quelque chose d'émotionnel comme une tristesse, une colère ou quelque chose comme ça, et ben, des fois, c'est intentionnel et des fois, ça ne l'est pas. Donc, on veut juste s'auto-demander pardon, mais c'est que à soi. Hein. On n'est pas en train de pardonner le monde entier. Hein. C'est vraiment que pour soi. Vous savez, quand on porte la honte et la culpabilité en soi, se demander pardon, des fois, ça fait beaucoup de bien. Hein.
Oui.
Parce que je m'aperçois très, très, très régulièrement que de faire dire à quelqu'un, même si j'ai honte de ce que j'ai fait en séance de FT classique, la majorité des gens ont beaucoup, beaucoup de mal, alors qu'on leur demande pas de pardonner à qui que ce soit. On leur demande de se pardonner à eux. Et ça, c'est très, très dur, très difficile pour la majorité des gens. Hein. Donc, c'est bien quand ça rentre en ligne de compte. Voilà, on va pas se faire de l'auto-flagellation. On va juste se demander un petit pardon pour soi. On peut juste le mettre en mots dans sa tête. Voilà. Et puis, le dernier point, enfin, l'avant-dernier point, on va dire que ce serait demander à cette douleur de quoi elle a besoin maintenant. Alors ça, c'est vraiment du dialogue intérieur. Dis donc, mon mal de genou, là, tu aurais besoin de quoi maintenant? La première chose qui peut vous venir à l'idée, c'est peut-être du repos. Vous vous dites, alors qui c'est qui parle là? Ben, c'est vous. Hein. C'est vous, c'est votre petite voix intérieure qui dirait, ouais, allez, au lieu de t'en demander tant, mets-toi dans le repos pendant une journée de plus, ça ne te fera pas de mal. Ou peut-être que votre petite voix intérieure va vous dire, ben, écoute donc, prends donc soin de ton genou, voilà. Si je te faisais un petit emplâtre à l'argile, là, pour voir ce que ça donne. Ou n'importe quoi d'autre, hein, ou un petit massage à la crème, ou sur des petites douleurs, ça peut être sympathique.
C'est vous, c'est toujours la même chose, c'est vous occuper de vous. Vous êtes prioritaire pour vous. Au lieu de passer votre temps à vous occuper des autres, occupez-vous de vous. Posez-vous des questions, demandez-vous où vous en êtes. Ce n'est pas de la psychanalyse à deux balles, hein, c'est simplement, voilà, j'en suis où aujourd'hui, j'ai mal où, ça me fait quoi, à quoi je pense quand je pense à cette douleur, ça n'arrête pas de revenir systématiquement, si ce n'est pas pendant 3 jours, elle revient une journée, après je suis tranquille une semaine, et hop, elle est de nouveau là, cette douleur de dos, des cervicales, ce poids sur mes épaules, j'entends ça à longueur de journée. D'accord ? C'est jamais des choses hyper dramatiques, hein, mais c'est très handicapant tout au long de sa vie. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ça. Et comme on ne sait pas d'où ça vient, on peut faire ce petit protocole tout simple pour se permettre de lâcher toutes ces douleurs. Vous savez, ce fameux lâcher prise dont on nous rebat les oreilles, il y en a des pleins cahiers chez Cultura ou sur Amazon. Oui, mais comment je fais? Eh bien, ça, c'est une façon de faire.
Alors, faisons-le.
Eh bien, exactement. Eh bien... Qui que vous soyez, et toi Maria, qui que vous soyez à l'antenne, essayez de prendre cette petite douleur physique que vous avez, enfin petite ou grosse, hein, cette douleur physique qui vous enquiquine, qui vous pose un problème, ou cette douleur morale que vous avez, ce problème avec un collègue, avec votre patron, avec votre mari, vos frères, vos sœurs, vos enfants, ce truc qui vous pourrit un peu la vie, hein, n'y a pas d'autre mot. Prenez-le, commencez à vous tapoter tranquillement sur le point karaté. Simplement, faites-le venir dans votre tête. Généralement, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher bien loin, il est déjà là. Hein. Pensez-y. Focalisez-vous dessus, tout comme on le fait en EFT classique. Et réfléchissez-y, 30 secondes. Voilà, c'est là. C'est un poids dans le ventre ou un nœud à la gorge. Quelque chose qui vous embête, qui vous gêne, qui vous dérange. Ou une douleur à un coude, à un genou. Ça peut être quelque chose sur les épaules, le fameux poids sur les épaules. Ça peut être n'importe quoi. Simplement, voilà, mettez-le à votre esprit tout de suite, là. Et présentez-vous à lui. Coucou, c'est Cathy ou c'est Maria. Je viens. Allez, ça me fait rire, mais moi j'aime bien faire ça dans mes séances parce qu'il faut garder le côté ludique, hein. Il ne faut pas se prendre la tête.
Oui, ça fait du bien.
Le côté ludique, c'est coucou, c'est moi, c'est Cathy. Alors, ma petite douleur de genou. Je viens te voir, je me présente à toi et je viens à ton encontre avec une intention d'amour. Allez, une intention amicale, quelque chose de sympa, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir du mal.
Sur le point karaté, là, Cathy ?
Oui. On tapote que le point karaté pour l'instant, on ne se pose pas de questions.
Très bien.
Et puis, quand je dis une intention d'amour, il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à y mettre une intention d'amour. Parce que quand on est très en colère après son patron, et que ce n'est pas juste une douleur de genou ou de hanche ou de dos ou de n'importe quoi, y mettre une intention d'amour quand on se présente, ce n'est pas toujours évident. Donc, on pourrait peut-être y mettre juste une intention amicale, voilà, pour ceux qui préfèrent. Mm-hmm. N'oubliez pas que c'est vous que vous voulez aller guérir, ce n'est pas votre patron, hein. Donc, peu importe ce sur quoi vous allez aller travailler, vous vous êtes présenté, coucou, c'est Maria, coucou, c'est Cathy, je viens avec une intention sympathique. La deuxième chose... c'est que vous allez dire à votre douleur physique ou morale que, voilà, bah jusqu'à présent, vous n'aviez jamais réalisé que vous aviez peut-être la possibilité de vous auto-guérir. Et ma douleur de genou, excuse-moi, mais je ne savais pas que je pouvais venir te voir. Maintenant, je suis là. Et au lieu de te traiter de tous les noms et de dire ma satanée douleur de genou qui m'empêche de faire ce que je veux, eh bien, au lieu de te blâmer ou de te mettre dans un coin de mon corps, je viens te voir et je t'accepte tel que tu es. Mm-hmm. Tout comme on fait. On continue à tapoter sur le point karaté, hein, y a pas de souci. Hein. On enchaînera les autres points tout à l'heure. Voilà, prenez juste 2 secondes pour vraiment vous mettre dans la problématique. Et puis maintenant, vous pouvez commencer à tapoter les autres points gentiment. De toute façon, on va faire ça en rond. C'est ce qu'on appelle une ronde, mais la ronde ne s'arrête jamais. Alors, peu importe le point que vous tapotez, que ce soit le point karaté, les points classiques de l'EFT, pour ceux qui connaissent, que vous preniez les doigts, ceux qui ne connaissent pas, ça n'a aucune importance, recommencez une fois que vous avez fini sous le bras à reprendre sur le point karaté. Faites des rondes, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez rester plusieurs secondes sur le même point, parce que vous êtes en train de réfléchir. Passez à un autre point si ça vous plaît. Ouais. Ensuite, la troisième chose, ce sera d'expliquer que ce que veut votre cœur maintenant et toute votre âme, si on peut rajouter ça, c'est de guérir. Voilà, c'est l'intention de guérir. Guérir ce genou, guérir ce traumatisme, guérir cette vieille tristesse qui revient systématiquement. Parce que vous avez décidé que vous n'en avez plus besoin. Alors, il y a des gens hein, qui vont penser que le laisser partir tout de suite maintenant, ça peut être très difficile. Hein. Alors ça, j'en ai bien conscience. Mais on essaye, on fait. Continuez bien à vous tapoter sur tous les points.
Et on peut le faire progressivement, on n'est pas obligé de tout lâcher tout de suite.
Ah, on n'est pas obligé de tout lâcher d'un coup, hein, ça serait trop dommage. Beaucoup de gens ne veulent pas, hein, en toute conscience, tout lâcher d'un coup. Beaucoup de gens ont des douleurs physiques qui sont des repères pour eux, qui sont des douleurs qui leur disent « Top, stop, arrête-toi, là t'en fais trop ». Donc s'ils les lâchaient, ça voudrait dire que, comme dirait Jamel, hein, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et après, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être terrible. Tout ça, ça fait partie des croyances. Hein. Donc, on ne lâchera que ce qu'on voudra en son âme et conscience. Vous inquiétez pas, il ne peut rien vous arriver de grave. Mais sachez qu'il peut également y avoir de très belles rémissions. Enfin, quand je dis rémission, de très belles guérisons. Mmh. L'espoir est là. Hein. Donc, continuez à vous tapoter tranquillement. Peu importe où, c'est pas grave. Et on va aller faire ce qu'on appelle cette fameuse réunification de vous. Cette douleur, elle ne vous plaît pas, mais vous l'aimez quand même. Elle fait partie de vous. C'est quelque chose qui, au lieu de la bannir et la mettre de côté, voilà, elle fait partie de votre corps en entier. Et cette souffrance morale, parce qu'on peut faire sur les deux, hein, est là aussi. Voilà. La tristesse de Cathy fait partie de Cathy. La tristesse ou la colère de Maria font partie de Maria. On ne peut pas les bannir et les mettre de côté. Parce que chaque personne, c'est le yin et le yang, hein, le noir et le blanc, le mal et le bien, on est tous faits de ça. Hein. Et à un moment, pour que ça se réunifie pacifiquement, il faut aller y voir. Au lieu de les mettre de côté, il faut aller y voir. Alors, ce qu'on peut faire en quatrième point, c'est continuer à se tapoter tranquillement, toujours se focaliser sur ce sur quoi on est en train de travailler, et puis simplement aussi faire état du fait qu'effectivement, si c'est un comportement qu'on voudrait éradiquer, par exemple, on est bien conscient qu'on n'est que des êtres humains, et que ce fameux vieux schéma de comportement-là, qui serait par exemple l'alcoolisme, la boisson, voilà, allez, le petit verre de rouge tous les soirs pour faire du bien. Et quand je dis le petit, ça peut être les petits verres de rouge ou les chocolats. Hein. Les chocolats, les M&M's qu'on grignote devant la télé sans s'apercevoir qu'on a mangé 3,5 paquets. Eh bien, ces vieux schémas, on ne les rejette pas entièrement parce qu'ils font partie de nous. Et on va essayer, mais on ne peut pas faire de promesses non plus hein, de ne pas y retourner. Parce que si on les a mis en place, c'est bien qu'il y a une raison. Mais on essaye. On est juste dans l'intention. Peu importe les parties sur lesquelles vous travaillez. Là, je fais beaucoup de blabla, mais quand vous aurez le descriptif, vous verrez, c'est très très simple à mettre en œuvre. Les 5-6 points importants sont notés noir sur blanc, ça prend en 30 secondes. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous tapoter et de rester concentré sur vous. C'est comme si vous faisiez une méditation sur vous-même. Hein. Pour ceux qui connaissent la sophro, la méditation et toutes les autres techniques, voilà, on prend 30 secondes pour soi et on va faire un tour. Et au lieu d'y aller dans le négatif, on va y aller avec tout son amour pour soi. Donc c'est le moment où on va rentrer. Et avec, bien évidemment, parce que c'est ça qui compte, c'est vraiment les trois. L'acceptation, les tapotements, pas la verbalisation, puisque là on verbalise pas, mais on le fait dans sa tête. Mais donc son petit dialogue intérieur, c'est suffisant. Mmh. Et puis, c'est le moment où intervient l'acceptation de soi. Donc on peut y mettre un petit peu de pardon, voilà. Mais ce n'est pas du pardon sur les autres, c'est du pardon sur le fait qu'on s'est trouvé mal, émotionnellement parlant, ou physiquement parlant, parce que c'était intentionnel ou non intentionnel. J'ai pas fait gaffe à moi, je me retrouve avec une douleur ou un mal-être. Je ne me suis pas protégée, j'ai pris responsabilité de tout, alors qu'il y avait des responsabilités qui n'étaient pas miennes, même si on est toujours co-responsable. Et c'est là où on va s'auto-demander pardon à soi-même. Alors, je sais que c'est pas facile, parce que quand on a honte ou qu'on est dans la culpabilité, mais voilà, on va essayer. Vous avez compris le message. Vous savez qu'il y a un message là-dedans. Même si vous ne le comprenez pas, parce que vous n'avez pas encore acheté le livre de Jacques Martel. Moi, je suis une très culpabilité. Mais quand je dis Jacques Martel, ou n'importe qui d'autre, hein, allez, on va faire comme à la télé. Lise Bourbeau, Madame de Rainville, enfin bon, il y en a plein. Hein.
Oui.
Voilà. Et puis, la dernière étape, si je puis dire, si cette douleur est toujours présente, demandez-lui de quoi elle a besoin. Ça, c'est vraiment du dialogue intérieur. C'est un jeu, hein. Il faut vraiment le prendre comme un jeu. Il faut que vous rigoliez avec vous-même, même si c'est pas drôle. Moi, la majorité...
Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?
Voilà. Eh oh, et mon genou, là. T'as besoin de quoi ? Et vous verrez, il y a plein de choses qui remontent. Un bon bain, que tu me fiches la paix, que je me repose. Eh, hey, Cathy, repose-toi, c'est ton genou qui te le demande. Ou je l'accepte, tout simplement. Moi, je sais que je parle souvent des genoux parce que c'est des douleurs que j'ai eues dernièrement et que j'ai traitées de cette manière-là en leur disant « Salut les genoux, je sais que vous êtes là. » Ok. Bon, c'est vrai, je suis allée regarder un coup dans mon bouquin. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le bouquin ? Prise de décision difficile. Bon, bah, y a des gens à qui ça ne parlerait pas. Moi, ce jour-là, ça m'a parlé. Et puis, bah, comme par hasard, une fois que j'ai eu fait mon petit protocole, là, j'avais plus mal aux genoux. Après, bah, vous savez, moi, je ne cherche pas plus loin. Hein. Donc, vous allez demander à votre petite voix intérieure de vous dire de quoi il a besoin. S'il a besoin de rien, ben voilà, c'est ok. Hein. Essayez pas d'être logique sur ce coup-là. Essayez pas d'aller dire peut-être que j'aurais besoin de 10 séances de kinésithérapie. Non, c'est pas le but du jeu. Hein. Peut-être aussi. Peut-être, tout qu'on sait, peut-être que vous allez vous dire tiens, le médecin m'avait filé 10 séances de kinésithérapie, je les avais pas fait. Peut-être que vous allez vous rendre à l'évidence et vous dire que sur ce coup-là, vous en avez peut-être besoin. Mais essayez pas d'être logique. Bon, évidemment, si vous êtes avec une fracture ouverte, hein, c'est le SAMU, il n'y a rien d'autre. Mais la récupération
derrière... peut-être bien qu'on aille aux urgences.
Ouais, mais la récupération derrière, bien évidemment, peut se faire avec le FT, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous n'entendez rien du tout, si le fait de vous dire que vous n'avez pas de voix intérieure, pas d'émotion, pas de ressenti, soyez juste persistant avec les tapotements. Vous serez toujours gagnant avec la persistance dans les tapotements, même si vous n'avez rien à dire, parce que de toute façon, votre cerveau ne se met pas sur off. Votre cerveau ne se désenclenche pas. Il est, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, tout au long de votre vie, en action. Donc, même si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de tapoter, vos ruminations intérieures, eh ben, c'est ça que vous tapotez, en fait. La seule touche qu'on ajoute ici, c'est d'essayer, si vous arrivez, à les nommer dans votre tête, ces ruminations ou ces douleurs physiques ou morales, d'aller les voir avec amour. Voilà, j'en reviens toujours à ça. Essayez d'aller les voir avec ce côté positif. Si vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec cette partie-là, dans tous les cas, vous pouvez terminer avec une ronde classique. Vous savez en toute conscience que vous venez de penser et de cogiter pendant 5 minutes à ce problème, vous n'arrivez pas à faire de manière positive, arrêtez-vous, dites voilà, même si, et là on tapote de manière classique sur le point karaté, et vous verbalisez, même si je n'arrive pas à me défaire de ce repas de famille qui me hante, même si je n'ai pas supporté les réflexions de tonton Fernand à tata Marie, même si toute la famille s'en est mêlée et que ça a tourné au pugilard, je m'aime et je suis une fille géniale. Donc là on peut reprendre le tour classique des séances EFT avec verbalisation. C'est une autre manière de faire. C'est, voilà, on inclut un petit peu des choses un petit peu différentes parce qu'il en faut pour tous les goûts. Peut-être que ça ne parlera pas à certaines personnes qui préféreront rester avec la méthode classique et peut-être qu'il y a plein de gens qui vont enfin pouvoir se servir de l'EFT par le fait de justement ne plus avoir cette verbalisation.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que souvent, nos clients bloquent là-dessus. Hein.
Ah, bah,
je veux me tapoter, mais je ne sais pas quoi dire.
Oui, bah, très exactement ce que vous venez de me dire, madame. Et ils disent, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà.
Oui.
Donc c'est une autre manière de faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai incorporé depuis longtemps dans mes séances. Je ne fais pas toutes mes séances de cette manière-là, mais souvent, quand la personne a un petit peu d'imagination, qu'elle a envie de rigoler 5 minutes ou pas, parce que voilà, eh ben on incorpore ça. Et puis c'est vrai que les gens ne sachant pas vers où je les emmène, ils ferment leurs yeux souvent, ils tapotent en continu. Et puis je les guide tout simplement avec le petit protocole que voilà. Et puis quand je commence à leur dire que eh ben il faut qu'ils se présentent à eux-mêmes, ben il y a un sourire, je les vois sourire. Ils continuent bien gentiment à faire ce que je leur demande. Et puis je leur dis d'aller voir cette petite douleur physique. Et puis d'un seul coup de leur dire coucou, c'est moi, c'est Maria ou c'est Cathy ou c'est Isabelle, je suis là, je viens en paix, je viens avec amour. Je viens te rendre visite à ta douleur de genou. C'est vrai qu'on ne le fait pas tous les matins. Mais puisque je vous dis que ça fonctionne, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, c'est quelque chose que vous pouvez...
C'est peut-être bien pour ça qu'elle ronchonne, cette douleur. Parce que personne n'est jamais venu la rendre visite.
Ni lui rendre visite, on est bien d'accord.
Si on reste dans les films, ça fait penser à Tata Daniel.
Exactement. Tata Daniel. et bien évidemment, en allant voir cette douleur de cette manière-là, vous allez être surpris des résultats que vous aurez.
Oui.
Fois de Cathy.
Oui. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Cathy, avant qu'on passe aux questions-réponses?
Non, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir été suffisamment claire. Je suis libre pour les questions-réponses.
Nous allons passer aux questions-réponses avec Cathy. Un instant.
Oui, répondre.
Oui, Cathy.
Oui, bonsoir.
Tu es avec
moi. Bonsoir. Allô?
Oui, est-ce que tu vois bien les questions qui défilent dans le chat?
Pas du tout.
Alors nous allons...
J'y vais immédiatement.
Oui, bonsoir.
Déjà, si tu peux fermer l'écoute dans la salle en même temps.
Oui, est-ce que tu vois bien les questions qui défilent dans le chat? Pas du tout. Alors nous allons...
C'est un peu laborieux, le direct. Coupe le son de ton ordinateur. Et voilà, nous avions une question.
Déjà, si tu peux fermer l'écoute en même temps.
Tu m'entends?
Oui. Une patiente se note 8 puis 7 et après elle ne pouvait plus noter. On a continué sur le fait qu'elle ne pouvait pas, mais j'ai ressenti qu'elle avait besoin de ne pas tout évacuer. Ai-je bien fait de lui dire qu'on poursuivrait plus tard?
J'ai pas entendu la question, je suis désolée.
D'accord. Marlène, qui est une
patiente,
a travaillé avec quelqu'un qui voyait un peu les évaluations descendre.
Oui.
Mais à un moment donné, la patiente dit qu'elle ne pouvait pas continuer et Marlène a eu l'impression qu'elle avait besoin de ne pas tout évacuer.
D'accord. La première chose qu'elle aurait pu faire, c'est peut-être de lui poser tout simplement la question. Est-ce que vous avez peur que... je ne sais pas si c'était une douleur parce que je n'ai pas lu le mail, mais est-ce que vous avez peur, par exemple, de lâcher cette douleur, hein, peut-être, hein, c'est la bonne question à poser dans ces cas-là. Et si la personne dit oui, on peut commencer par tapoter, même si j'ai peur de lâcher ma douleur.
D'accord. Alors, Toinette pose la question dans le chat. J'ai l'impression que mon corps et moi, on fait deux et non un seul et unique. Comment reconnecter les deux?
Alors, c'est très, très simple, Toinette. Je suis ravie qu'on me pose la question parce que je n'avais pas pensé à en parler pendant l'interview. Très, très souvent, ça arrive. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être coupées en deux. Alors, la première des choses à faire, c'est même si j'ai l'impression... d'être coupé en deux, même si j'ai l'impression que ma tête n'est pas rattachée à mon corps, même si j'ai l'impression d'être au-dessus de mon corps, j'ai déjà entendu ça. Donc dans ces cas-là, on tapote en EFT tout simple, tout classique, même si, et on dit ce que l'on ressent.
D'accord.
Voilà, Toinette.
Alors, fan EFT dit merci, mais c'est vraiment difficile d'aimer une douleur. Cela me semble paradoxal. Comment aimer une chose dont on veut se débarrasser?
Alors, en fait, on va aller l'aimer, enfin, on va aller l'accepter plus que l'aimer. Mais l'accepter, c'est déjà un petit peu l'aimer. Mais c'est pas parce qu'on y met un petit peu d'amour qu'on va plus pouvoir s'en débarrasser après et qu'elle va rester. On accepte et ensuite, la disparition opérera. Mais dans un premier temps, c'est juste reconnaître. En fait, vous connaissez certainement la maxime qui dit « plus on résiste, plus ça persiste ». Eh bien, c'est exactement le cas avec ces douleurs. C'est-à-dire que plus on y met de l'émotion et de l'intention négative, plus ça va être là et ça va enfler, ça va grandir, ça va grossir. Plus on se focalise sur sa douleur, plus la douleur est présente. Alors, on peut aussi l'ignorer, hein, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, on peut ne serait-ce que dans un premier temps l'accepter. L'accepter, lui dire, ben voilà, tu fais partie de moi, donc je t'aime un peu parce que j'aime toutes les parties de moi. Et à partir de là, voilà, suivez la technique et vous verrez, vous aurez des résultats.
Bien sûr. Alors, la question de Maura, justement, toute cette méthode, c'est toujours en faisant du tapping?
Oui, toujours. Oui, toujours, toujours, toujours. Ça fait partie intégrante de l'EFT. Je ne me sers que de l'EFT à longueur de journée. Donc, c'est vraiment avec l'EFT, tout à fait.
Isabelle se demande, puis-je changer le cours de ma vie affective avec cette méthode?
Oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui m'est demandé également très, très souvent. Oui, bien sûr. À partir du moment où vous êtes dans une énergie de négativité par rapport à vous-même et aux éventuelles relations ou la relation que vous avez en cours, à partir du moment où on change cette énergie et qu'on passe dans la positivité, bien sûr, c'est pas juste c'est à la fois de l'intention, mais c'est aussi des tapotements. On est bien d'accord, hein. Il faut vraiment utiliser la technique pour pouvoir avancer. Oui.
D'accord. Question de Colette. Par rapport aux maladies de peau et le psoriasis, que faire?
Alors, il faut tout simplement utiliser l'EFT, tout comme on le fait en EFT classique, c'est-à-dire même si je ne supporte plus de voir ma peau dans l'état où elle est, je ne supporte plus que ça me démange autant, cette brûlure, cette démangeaison, enfin on travaille normalement. Et après, on peut intégrer ce que moi je vous ai expliqué ce soir, qui est déjà de se dire, ben voilà, jusqu'à présent, je me trouvais moche et toute pouilleuse parce que j'ai toute la peau qui s'en va. C'est ce qui se passe hein, normalement quand on a du psoriasis, surtout s'il est assez étendu. Généralement, on se déteste, on déteste les parties de soi qui sont touchées par le psoriasis ou n'importe quelle autre maladie de peau. Et ben, pour une fois, voilà, ces parties-là font partie de vous. Vous êtes unique, vous êtes une seule personne avec des endroits sur vous qui sont pas dans le meilleur des états. Vous allez aller les reconnaître, les accepter. Et puis, vous dire que bah, peut-être en passant par ce chemin-là, vous allez peut-être trouver de la rémission. Essayez. Dans tous les cas, moi, je dis la même chose que Gary Craig, le monsieur qui a mis cette technique au point. C'est « try it on everything », c'est-à-dire essayez-le sur tout. Essayez et vous verrez. De toute façon, vous n'avez rien à y perdre.
Alors, Kovan demande pour la part de sa fille qui vient d'avoir un petit garçon. Il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que sa maman peut faire le travail à la place de son bébé?
Oui, bien sûr. Je ne sais pas quel âge a ce bébé, mais dans tous les cas, pour tous les enfants de 0 à 2 ans et demi, 3 ans, tout dépend de l'enfant, on passe toujours par la maman. Donc, bien évidemment qu'elle peut faire pour son enfant. Elle peut le faire suivant les indications de ce que le médecin a dit. Enfin, je ne sais pas de quoi ce qu'il a cet enfant, mais elle peut travailler sur elle par rapport aux indications du médecin et puis par rapport à son ressenti à elle. Et si son enfant parle, par rapport au ressenti de l'enfant.
D'accord. S'il faut tapoter tout le temps, faut-il embaucher quelqu'un pour les moments où l'on dort? Est-ce qu'il faut tapoter tout le temps, Cathy?
Ben, bien sûr que non, on ne va pas passer 24 heures à se tapoter par jour. Mais qu'est-ce qui vous empêche quand vous traversez votre jardin de vous tapoter? Qu'est-ce qui vous empêche quand vous êtes en train de, je ne sais pas, j'allais dire repasser, non, repasser, on a les deux mains prises. Mais vous pouvez aussi vous tapoter dans votre tête. Hein. Moi, c'est quelque chose que je fais très habituellement. C'est vrai que ça demande un petit entraînement, mais bon, pourquoi pas. Mais dès que vous avez 5 minutes, vous allez de votre... parking, enfin vous sortez de votre travail et vous avez 10 minutes de marche, vous pouvez vous tapoter très discrètement tout en marchant. Mais vous avez certainement du temps libre quand même dans votre journée. Je ne pense pas que vous soyez pris 24 heures sur 24. Vous pouvez le faire 5 minutes avant d'aller vous coucher si vous voulez. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, 5 minutes le midi. Maintenant, il va commencer à faire beau. Hein. Vous savez qu'à la pause déjeuner, si tout le monde sort des bureaux, vous pouvez vous trouver 5 minutes pour vous tapoter. Quand on s'aime et qu'on vaut le coup, on trouve toujours le temps.
Oui, tout à fait. Alors, Elémia écrit « Pourquoi mes pointes sont douloureux quand je tapote un peu plus que d'habitude ?» Peut-être que le congrès commence à laisser des traces. Je n'aimerais pas que nos auditeurs se fassent des bleus, alors. Doucement.
Peut-être tout simplement parce que vous vous tapotez trop fort. Hein. Ça peut être une chose. J'ai certaines de mes clientes, principalement les femmes, qui ont l'impression que quand ils se tapent fort, ça va fonctionner mieux. Non, pas du tout. On peut. Alors, si vraiment tapoter vous pose un problème sur certains points, vous pouvez simplement poser vos doigts dessus et ça sera amplement suffisant.
D'accord. Alors, Mireille demande quoi faire en cas de sensation d'étouffement. Alors, je voulais savoir, Mireille, est-ce que c'est pendant le tapping ou est-ce que le problème, c'est cette sensation d'étouffement? Voilà, je repose la question dans le chat.
Oui, c'est bien de savoir exactement. Si cette dame est prise d'étouffement pendant qu'elle se tapote, d'abord, un, ça serait une première. Mais deux, il est vrai qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe. Ça, c'est sûr, il faut savoir ce qu'elle veut dire par là, avant de pouvoir répondre.
Et je crois que c'était Mireille aussi qui disait « J'ai des émotions qui montent sans savoir ce que c'est, enfin sans pouvoir les identifier. » Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, Cathy ?
Eh bien, on peut faire ce que je viens de vous expliquer pendant une heure. Vous tapotez. Vous ne savez pas ce que c'est là, c'est présent, c'est en vous. Puisque c'est là, profitez-en, tapotez-vous. Ne verbalisez pas, c'est-à-dire ne dites rien, mais tapotez-vous. Vous allez automatiquement faire baisser, enfin, vous libérer de ces émotions que vous n'êtes pas capable de verbaliser. Vous ne savez pas d'où ça vient, à quoi ça correspond. Vous pouvez être parfois être dehors en train de regarder les petits oiseaux et d'un seul coup être envahi de tristesse. C'est tout à fait possible, voire même de sanglots. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes. Dans ces cas-là, on se tapote. Hein.
Oui, donc Mireille répond que effectivement la sensation d'étouffement, c'était le problème sur lequel elle travaillait.
D'accord.
Est-ce que tu peux suggérer quelques phrases pour contacter cet étouffement par ce biais des dialogues intérieurs?
Oui, bien sûr. Bah, les phrases seront des phrases qui sont tout à fait...
Sachant que les phrases de Mireille, bien sûr, seront les meilleures parce que c'est les siennes et c'est les mots qu'elle se dit à ce moment-là. Mais déjà pour lui mettre le pied à l'étrier.
On est tout à fait d'accord. Bien évidemment, les seules phrases qui sont intéressantes, ce sont celles que vous vous direz. Je ne vous connais pas, je veux bien vous aider 30 secondes, donc il n'y a absolument aucun souci. Si vous étouffez, la première des choses que vous dites, c'est « même si j'étouffe, même si j'ai l'impression que tout se serre dans ma gorge ». Ou alors, si c'est au plexus, vous pensez à votre plexus et vous dites « même si ça me serre là ». En fait, vous n'avez qu'à dire ce que vous pensez. Alors, je sais, voilà, pour beaucoup de gens, c'est quand même assez difficile, mais on peut vraiment arriver à des résultats exceptionnels. Ah oui, je vois que Mireille a mis suite à un cancer du poumon, effectivement. D'accord.
Oui.
Ok. Alors, les poumons, Mireille, pour information, si vous prenez le livre de Jacques Martel le décodage, en fait, si vous voulez, de la relation émotionnelle aux poumons. Les poumons, justement, c'est la tristesse. Donc, vous voyez, ça tombait bien ce que je venais de vous dire. Tapotez sur votre tristesse.
Bon. Alors, Lola May pose la question, comment entendre la voix intérieure quand on est dans l'énonciation des phrases? J'ai du mal à faire les deux en même temps.
Alors, dans ces cas-là, ne la verbalisez pas. C'est-à-dire, continuez très exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de turbiner dans votre cerveau, d'avoir toutes les pensées qui viennent, qui partent, qui s'agitent, et puis tapotez-vous tout simplement. Ça vous évitera de verbaliser ce qui paraît assez difficile à beaucoup de monde.
Oui, ce n'est pas forcément un dialogue du tac au tac. Si la voix intérieure est présente et qu'elle parle, on la laisse parler.
Complètement. C'est tout à fait ça.
Bon. Ben merci beaucoup Cathy, je crois que nous allons nous arrêter là parce qu'il se fait tard.
Tout à fait.
On ne voudrait pas empêcher nos chers auditeurs de dormir. sachez que le dialogue peut se poursuivre, le dialogue extérieur avec Cathy pourra se poursuivre sur le blog du congrès. Donc merci beaucoup à Cathy et à tous nos auditeurs ce soir. Et je vous rappelle donc que la réécoute va commencer d'ici un quart d'heure dans la salle blanche. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h dans la salle verte pour la conférence de Bianca von Heyroth sur comment de ne redonner de la joie à l'enfant abandonné en nous. Ça sera une conférence intense aussi. Donc soyez au rendez-vous. Merci à tous. Bonne soirée et à demain.